gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va? Bien. Bon.
Monsieur Rocky, caca de Noël, copain qui vient des intestins. Va sur le trône et tu verras. Pousse un peu, il sortira. Le voilà, il est tout chaud. Te salue par un hardy ho. Car lui qui vient de l'intérieur a vu l'amour dans ton cœur. Il peut être moelleux, il peut être rugueux, marron ou couleur cornichon. Mais si vous mangez des fibres et des fruits, il viendra cette nuit. C'est le petit caca de Noël. Il descend pas du ciel, mais c'est tout de même notre copain.
Je sens que monsieur en pied.
Hockey, je vous salue. Je viens pour Noël, c'est bien connu. On va danser, rire et chanter avant que je sois tout desséché. Chou, oh, je délire. Avec moi dans la bouche, essayez de dire.
Hockey, ho, ho, miam, miam, miam.
C'est Noël, je le proclame.
Parfois il est mou, parfois bien ferme.
Parfois c'est pratiquement de l'eau.
Et parfois il s'accroche à votre cul. Ne tombe pas dans les toilettes. Il est coincé dans le sphincter. Et il se décroche pas, alors on doit remuer son cul pour qu'il tombe dans la cuvette. Voilà, ça y est.
Monsieur Hockey vient qu'un seul jour. Noël fini, il sera parti. Mais nous garderons dans nos cœurs tant son esprit que son odeur.
Amis de la poésie, bonsoir, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canus et la causerie qui commence comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et ce soir, autour de la table, alors déjà la technique,
ouais.
Le maître... Fab.
Bonsoir.
Clara nous a lâchement abandonné.
Elle a bien eu raison, parce qu'après un générique pareil, je ne serais pas resté non plus.
Ouais, pourtant. Et nous avons l'honneur, que dis-je ? L'immense...
Le privilège.
Ouais.
Immense. Tu crois que c'est si gros que ça ? Si grand que ça ?
On va pas aller là-dessus. Mais en tout cas, on est ravis de les recevoir. C'est Laurent et Delphine.
Salut, bonsoir à tous et à toutes. Et
bonsoir, nous on fait le matin sur Radio Canu. Vous savez, l'émission de 7 à 8.
Non ? L'émission de 7 à 8. Mais bien évidemment, mais c'est de 7h à 8h, mais c'est le jeudi soir en fait. Tu t'es juste un peu trompé, ouais. Mais c'est ça.
Non,
c'est...
il parlait des anciennes rediffusions du matin, oui, parce que c'est vrai que pendant un moment on nous écoutait
c'est vrai.
Avec l'autoradio
c'est
le
vrai.
Matin.
C'est et vrai. Voilà, la causerie nous a invités, on s'est incrusté, enfin un peu, mais de force.
Après, moi on m'a dit c'est parce qu'il y avait le Père Noël qui venait, alors je me suis dit que j'avais des questions. C'était peut-être l'occasion pour moi. Voilà.
Et alors, ben, on est désolé, mais il nous a envoyé un message.
Mmh.
Et,
non.
C'est le futur.
J'étais sûr. Rien que du mensonge.
Moi, c'est ça. Moi, je vous propose que, du coup, pour qu'il vienne, on l'appelle tous en cœur. Vous êtes prêts ?
Non, je crois pas.
Tous en cœur et en musique. Mais si, attends.
Okay.
Alors, vas-y. Ça marche, regarde ma transition.
Allez, vas-y.
C'est la belle nuit. Et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants, avant de fermer les paupières, font une dernière prière. We'll be right back.
qu'il y a des grelots à la fin.
C'est génial. Voilà. En fait, j'hésite. Est-ce qu'on ne devrait pas rendre l'antenne maintenant?
Ouais, parce que là, t'as passé le top du top dès le départ.
Oui,
en fait,
je veux dire, bah, vous voulez le Père Noël, j'ai fait venir.
Et ça
le
ne va aller que crescendo. Hein. On va alors, lancer...
Crescendo, c'est-à-dire que ça monte, c'est ça?
Ouais, ah ouais,
c'est
ça. Ouais.
C'est un terme technique, je demandais.
Donc, du coup, c'est quand même la causerie.
Ouais, bien évidemment.
23, le dimanche, même le dimanche de Noël. Voilà.
C'est ça.
Et quand même, rappelez peut-être qu'on a un mail et un blog.
Ouais, si vous avez la tête, l'envie de nous. La tête à nous écrire, ça se passe à lacausericanu@gmail.com. On a le blog aussi où vous pouvez trouver toutes les émissions passées.
Elles sont pas toutes comme celle-là.
Non, il y en a des sérieuses, genre celle de la semaine dernière en compagnie de Georges, où on a parlé
des planètes,
ouais. D'astronomie. Et je vous invite d'ailleurs à y retourner, à écouter tout ça sur les blogs, et ça se passe donc à blogs.radiocanu.org/lacauserie.
C'est ça.
Où vous allez sur le blog de Radio, le site de Radio Canu, les blogs, tout ça, tout ça.
Tu cliques, et voilà.
Et tu trouves.
Ben voilà.
Et on a aussi
un
espace sur un réseau social bleu avec un F blanc.
Oh là.
Bah, oui, on ne cite pas, on s'est interdit de faire de la publicité.
Il y a aucune autre émission qui y est. On ne citera pas, par exemple, Noise Pollution.
Non mais auditeur, auditrice, il faut savoir qu'au-dessus de cette table, je suis la seule pure.
C'est vrai.
Je ne me suis pas laissé manger par une multinationale.
C'est vrai.
Sachez-le, c'est important. Il y a encore des gens qui résistent.
Sauf Heineken.
C'est pas la même multinationale. Elle est meilleure à vous.
Bon, allez, démarrons un peu cette causerie de Noël,
oui,
parce qu'on va quand même caser quelques petits trucs.
Ouais, mais je voulais déjà dire, enfin, tu l'as dit ce qu'on vient d'écouter?
Ah non. C'était les Celtes qui avec Petit Papa Noël.
Ça se devinait un petit peu.
Et pour le générique, c'était South Park avec la chanson de Monsieur Hankey.
Oui.
Voilà. Le petit caca Noël.
Voilà. Oui, le petit caca Noël.
Tous les deux ans, on la met. C'est une tradition. C'est une biennale. La biennale du petit caca Noël. Ça marche
et
comme ça.
Et qu'on essaie de respecter, sinon on est foudroyé sur place.
Ils mettent en boîte, je te rappelle, le caca et qu'ils font après des fortunes en art contemporain.
C'est vrai, tout à fait.
Il faut s'en souvenir quand même.
Comme quoi, la merde mène à tout.
Tout à fait.
Et bien voilà, après toutes ces grandes pensées, Fab, tu voulais nous causer d'un truc, non? Ou pas?
Je sais plus. Ah oui, si, c'est moi là. Je suis un peu perturbé. Non, mais du coup, je voulais juste dire que Noël, c'est le. Il y a plein de gens qui arrêtent pas de nous dire. Moi, je fête pas Noël. Alors, pour pouvoir faire des cadeaux, ils disent ouais, en fait, moi, je fais les fêtes d'avant Noël, tout ça. Alors, moi, je fête le solstice.
Le solstice d'hiver, tout ça, là.
Voilà, tous ces trucs-là. Bon, en fait, arrêtez un peu avec tout ça. C'est des fausses excuses à 3 balles. En fait, vous aimez juste faire des cadeaux aux gens que vous aimez. Eh ben c'est tout. Faites des cadeaux de fin d'année. On va arrêter de tourner autour du pot pendant 3 plombes, à savoir si on fait le solstice, si on est avec machine ou truc. Merde. Faisons des cadeaux. Aimons-nous les uns les autres. C'était mon message positif de la soirée. Le reste de l'émission, je fais que des trucs tristes.
C'est beau. Donc, vraiment, t'étais pas en Italie toi ce matin. T'as pas fait un discours.
Ben j'étais en blanc. Tu m'as vu. Ah, il y a une place.
Ouais.
Et tout.
On t'a vu. Ouais, nous aussi, on a regardé.
C'était sympa. Hein.
Ah ouais.
Nous aussi, on a regardé.
On voulait y aller. Et ouais. Puis on n'a pas eu de billets, tout ça. Et
ben non, mais enfin, t'as vu le monde.
Bah tu vois. Ce soir, tu l'as rien que pour toi.
Putain, j'ai un François dans les studios.
Et, et maintenant, j'ai changé. J'ai pris un pseudo. Et maintenant, quand même. Pour quand même qu'on parle d'un truc intéressant, tu voulais présenter une BD.
Ah, bon, bah
oui,
donc
j'étais un peu coincé là. Le temps que je prépare ton CD. Et tout,
alors tu fais ça bien parce qu'on est censé quand même récupérer des auditeurs et des auditrices pour le jeudi quoi.
Ah oui.
Alors assure parce qu'ils ont des sacrés auditeurs et auditrices.
La meilleure BD de science-fiction de l'année 2016.
Ça, c'est
rien que ça.
Bah, voilà. Comme ça, c'est fait. J'ai même plus rien à dire. Je vais vous dire le titre et vous irez lire. C'est une tuerie. Donc ça s'appelle Shangri-La. C'est Mathieu Babelet qui a sorti cette BD. Ça a dû sortir au mois de septembre. C'est une petite maison d'édition qui s'appelle Ankama. Et ça a été épuisé très très vite. Donc il a fallu qu'il fasse du retirage. Ce qui avait jamais dû leur arriver à cette maison d'édition. Pour expliquer un petit peu le succès. Alors c'est un succès d'estime. Hein, ils en ont pas vendu 500 000 non plus. Mais voilà, c'est une BD qui a bien marché. Qui a eu des chroniques dithyrambiques un peu partout dans le monde de la BD. Donc je vous en parle brièvement. C'est... une histoire de science-fiction, hein. Assez traditionnelle au départ. On est sur une planète, donc il y a un personnage seul qui a l'air un peu à la ramasse un petit peu, et puis qui va mourir au bout d'une dizaine de pages. On se dit que ça lui explose dans la gueule en fait, la planète. Enfin, tout a l'air d'exploser dans le système solaire. Mmh. On ne sait pas ce qui se passe. Et en fait, c'est bien évidemment la fin de la BD hein, qui était au début. Comme ça, on sait qu'il meurt, tout ça, ça règle tous les problèmes d'histoire. On va se concentrer sur ce qui est important, ce qui entoure le monde d'où il vient.
Et le monde d'où il vient, en fait, c'est que il est, c'est une sorte d'enquêteur qui travaille, qui est une sorte d'esclave, parce que alors je vais vous reparler du monde du travail dans cette société-là. Il est, il se passe des choses sur des satellites. Les satellites explosent ou ça se passe mal, et lui, il est envoyé par la multinationale qui gère tout ça pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et ça commence comme ça. Donc il est dans son enquête avec d'autres personnes qui l'accompagnent. Et puis petit à petit, se glissent des idées politiques. Hein, on sent les autres sont plutôt des rebelles. Ils disent non, mais on supporte plus cette multinationale qui nous envoie. Mais pour l'instant, on comprend pas trop comment elle intervient, cette multinationale. Et puis, au bout d'un moment, ils finissent leur enquête, ils rentrent avec leur vaisseau, machin, et en fait, ils sont sur un seul gros vaisseau qui est autour de la Terre. Et la Terre était inhabitée depuis un certain nombre de dizaines de milliers d'années, puisque à un moment, il y a une civilisation qui a trop pollué. Bon, un truc assez classique aussi de la science-fiction. Et ce qui est, jusque-là, tout va bien. Et ensuite, on va découvrir la vie dans cette énorme station spatiale, dans laquelle finalement tout ce qu'on vit sur Terre ou ce qu'on a vécu sur Terre se reproduit avec à une nouvelle échelle et avec des nouveaux phénomènes un petit peu, mais c'est un petit peu la même chose qu'on vit au jour le jour. Alors par exemple, donc au départ, ce sont quelques réfugiés qui ont pu se reproduire et construire cette centrale alors que la planète était devenue irrespirable. Et en fait, il y a qu'une cette fusée, enfin cet truc sur orbite là, il appartient à une société. Forcément, il y avait qu'une société. Du coup, en fait, toute leur vie, elle est gérée par une seule multinationale. Vous allez me dire, on n'en est pas encore là, mais on n'en est pas si loin que ça des fois. Et du coup, ça montre et on découvre cette population qui vit là et qui est ne pense qu'à une seule chose, c'est acheter le dernier. Alors ils n'ont pas besoin d'acheter, on leur dit il y a un nouveau produit qui est sorti, il faut que vous alliez le chercher, et ils vont tous le chercher. On a une sorte de société un peu déshumanisée où les gens ont l'impression que tout le bonheur, c'est dans ce que la multinationale va leur proposer. Alors, même si c'est un thème assez classique, c'est bien mis en œuvre. Et alors pour avoir de la force de travail, ils ont créé des sortes d'êtres mi-hommes, mi-animaux. Mais du coup, on voit apparaître au fur et à mesure de la BD que ces êtres mi-hommes, mi-animaux, ils n'ont pas le même statut. Et on voit apparaître des courants racistes en fait au sein de cette population humaine qui est donc raciste contre ces êtres humains là et ensuite raciste contre des robots, parce qu'il y a quelques êtres aussi des robots. Et on, alors je vais pas raconter toute l'histoire parce qu'après il se passe plein de choses. C'est une BD qui est très épaisse, hein, ça fait 220 ou 230 pages en grand format. En plus, le dessin est vraiment, vraiment très très bien. Et voilà, se met en place tout ce qu'on vit finalement à l'échelle de la Terre, mais dans un environnement qui est beaucoup plus petit. Il n'y a pas tant de personnes que ça. Hein. On se rend pas compte, mais il doit y avoir 10-15 000 personnes. Mais ces 10-15 000 personnes reproduisent déjà très rapidement. Finalement, on a l'impression, le rejet de l'autre, le racisme. Alors, c'est pas entre les êtres humains, parce qu'ils ont trouvé quelqu'un d'encore plus différent sur lequel on peut attaquer. Et puis, il y a une rébellion qui va essayer de lutter contre ça, contre cette multinationale. Bon, puis vous avez la fin, ça se termine mal. Bon, voilà. Mais alors, du coup, ce qui est très bien fait, c'est que en sachant, parce qu'on, alors même si le début est super énigmatique, il est tout seul sur la planète, ça explose. On se rend pas compte de pourquoi lui il meurt. Pas. Et en fait, on commence à comprendre que ça va mal se passer parce que les êtres humains sont complètement barges, comme nous sommes ici, hein, finalement. Et puis que les scientifiques veulent faire trop de trucs aussi, puis qu'à un moment, ça leur pète entre les doigts. On n'imagine pas du tout Tchernobyl ou tout ça. Hein, voilà, des choses. Et,
ça n'arrive
et,
jamais. Oui.
Voilà. Alors, on suit, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on suit des personnages qui n'ont pas tous les mêmes idées. Il y a les 3-4 qui sont vraiment rebelles, et puis il y en a d'autres, notamment celui qu'on a au début, là, qui va mourir à la fin du début. Pour lui, ça marche bien, la société dans laquelle il est. Puis en voyant ce qu'il découvre, il commence à changer d'idée. Et puis dans la rébellion, on se rend compte que une fois arrivé au pouvoir, en fait, il voulait juste le pouvoir. Enfin, il y a un peu, c'est un peu tout ce qu'on connaît des sociétés humaines dans un environnement qui est fermé et qui est de l'ordre de la science-fiction. Il y a un petit côté Philip K. Dick quand même, notamment quand il découvre que a priori la Terre est quand même moins pollué qu'il y a une certaine époque et qui pourrait presque redescendre. Il y a un caddic comme ça où ils sont sous terre, ils savent pas ce qui se passe et en fait c'est devenu vivable sur terre. Bon, c'est un peu la même idée. Voilà, c'est une très belle BD, c'est très bien fait. Ce qui est assez fort, c'est que en prenant plein de petits thèmes comme ça qui sont assez classiques, hein, la science-fiction est un énorme outil pour dénoncer ce qu'on vit aujourd'hui. Hein, on se rappelle de la planète des singes qui dénonçait les violences contre les noirs aux États-Unis. Enfin voilà, il y a tout ça. Mais là, c'est vraiment très bien remis au goût du jour. C'est très très bien fait, c'est très très beau. Et voilà, moi j'ai été vraiment très emballé. Alors je suis pas original, hein, parce que vraiment c'est la BD science-fiction qui a fait beaucoup parler cette année dans le milieu de la BD. Donc voilà, c'était, si vous n'avez pas encore fait de cadeau, qu'il vous en reste à faire, cette belle BD Shangri-La de Monsieur Babelet.
Et finalement, c'est un peu le pouvoir le problème, non ?
Eh ben, finalement, c'est exactement ça. Mais ça, nous, on le savait déjà. Hein.
Alors nous, oui. Mais tout le monde ne le sait pas.
Ah,
mais...
ah ouais.
Et tu peux ordonner la maison d'édition ?
C'est Ankama. Ankama, ouais. Une petite maison d'édition. Et ça se trouve partout, bien évidemment.
Et évidemment, comme d'habitude, quand on présente un livre à la causerie, on vous mettra toutes les coordonnées sur le blog. Comme ça, vous avez plus facile encore pour y trouver.
Eh ben, moi, je propose d'enchaîner deux bons petits titres là. Et on revient.
Vas-y.
Like, how that feels we go laughing all the way. Single bells, single bells, single all the way. Now what fun it is to ride in one horse open sleigh. Single bells, single bells, single.
c'était Jingle Bells par les Sex Pistols. Ça fait un peu France Culture, ouais. J'aime bien.
Et avant,
c'était quoi, Laurent?
C'était quoi? Ah,
c'était les Bureliers Noirs avec Où est passée la mère Noël.
Ah, c'est beau, il la chante.
Ouais. C'est un hymne.
Bah, c'était vraiment très très bien et on vous invite à vraiment réécouter l'émission en podcast pour réentendre tout ça. Voilà, c'était bien fait. Jean-Yves, tu avais un sujet. Alors, pareil, on m'a dit que dans une théocratie, on a envie de protéger les athées.
Les athées, effectivement. Et une théocratie assez connue. Hein.
La plus grosse, tu veux dire?
Bah, c'est la plus grosse, effectivement. Et peut-être une des plus riches. C'est donc les États-Unis où Obama, avant de partir, parce qu'il va bientôt partir, je pense que vous êtes au courant, tout ça, il a inclus l'athéisme dans la loi de défense de la liberté religieuse internationale. Et le monsieur a signé une modification de loi sur la liberté de religion à l'international, et ça inclut donc maintenant les athées comme groupe à protéger au même titre que les groupes religieux. Alors, c'est quoi cette loi sur la liberté de religion internationale? Bon, il s'agit d'une loi entrée en vigueur en 1998 qui avait été mise en place par la Commission américaine sur la liberté religieuse. Hein, ok, c'est ce que je viens de tout dire là. Et alors, quand même qu'on soit clair, enfin, moi je suis allé voir sur le site de cette belle commission. Bon, c'est un petit peu, c'est ce que je me disais, c'est que c'est un peu la même ligne politique que le pape, quoi. C'est-à-dire que la première liberté des individus, c'est quand même celle de croire. Donc on va la défendre. En tout cas, les Américains veulent défendre ce truc-là. Mais ce qui fait qu'effectivement, après, ils soutiennent les minorités, où que ce soit, on va dire, qui sont discriminées pour leurs croyances. Et donc là, maintenant, ce sera y compris les gens qui ne croient pas en Dieu, donc les antithéistes, hein, purs et durs. Maintenant à voir, moi ce que je me disais, c'est pourquoi déjà Obama il a attendu aussi longtemps avant de le faire.
Il n'y aurait peut-être pas eu Trump comme futur président, il ne l'aurait peut-être jamais fait.
Et ouais.
Là, il est dans une telle provoque en ce moment à faire que des trucs opposés totalement à la vision de Trump qu'on peut imaginer que c'est ça qui l'a poussé. Mais du coup, c'est un bon pied de nez.
Ah ouais, non, mais après, c'est tant mieux. Enfin, à la rigueur, honnêtement, c'est toujours ça de gagner pour pour celles et ceux qui ne croient pas et qui risquent, dans certains lieux, de se faire tuer tout simplement parce qu'ils ne croient pas et même, ils osent le dire.
Et même en interne des États-Unis, parce que ça commence à brasser au Texas et à l'Arkansas où il y a des lois spécifiques où les athées n'ont pas le droit de rentrer dans certaines administrations quand même. Donc voilà.
Enfin, de toute façon, je vous rappelle qu'aux États-Unis, un athée ne peut pas devenir président de la République puisqu'il est obligé de jurer sur la Bible. Alors aux États-Unis, il y a eu des présidents non-croyants, athées, mais ils ont fait semblant, quoi.
Non, ils ont juré sur la Constitution.
Ouais.
Ils ont le droit de jurer sur la Constitution, par contre. Ouais. Mais c'est mal vu.
Voilà, c'est ça.
Ça, c'est toujours le problème.
Et au tribunal, on jure sur la Bible aux États-Unis. Comme tu disais, c'est une théocratie.
Ah, c'est une théocratie. Je pense qu'il ne faut pas se mentir là-dessus. Donc il faut espérer que ça serve à tous les athées à travers le monde, mais aussi aux États-Unis, dans cette belle théocratie, en fait. Donc voilà. Moi, c'était juste ça, dire que voilà. Ça avance un petit peu.
Mais comme quoi, des fois, quand ils se tirent la bourre entre deux élections, ça devient marrant.
Mais qu'en même temps, c'est terrible parce que ça veut dire que ces vies de gens qui sont matérialistes, en fait, elles ne valent que ce que vaut le jeu de l'élection.
Non,
en fait,
quoi. Non, mais je disais pas ça. C'était ironique, hein, c'est marrant.
Ouais, fallait pas être.
Je trouvais ça bien.
Je vais quitter cette émission.
Avant qu'on passe à Delphine qui va nous présenter un livre, je voulais juste répondre à un commentaire qu'on vient d'avoir. Non, nous ne sommes pas sous LSD. Voilà, alors donc. C'est à toi.
Laurent vous a parlé d'une BD que l'on trouve très facilement. Moi, je vais vous parler d'une BD qu'on trouve plus difficilement. excusez-moi, précisément, je vais vous parler de deux séries de manhwa. Manhwa, vous savez, c'est les BD coréennes.
Sud-coréennes,
tout à fait, tout à fait.
Parce qu'au nord, ils n'ont pas le papier pour faire les BD.
C'est pas tout à fait vrai, mais nous pouvons en rire. Donc, c'est scénarisé par Kim Young-bin et mis en dessin par Hong Dong-ki. Hong Dong-ki, vous le connaissez peut-être, il a fait une série qui s'appelle Monk, moi, j'aime pas du tout, mais enfin voilà, c'était pour situer le monsieur. Il y a eu deux séries, une même qui s'appelle Jeon Bae et l'autre qui s'appelle A vos papilles, voyage culinaire en Corée. Jeon Bae, c'est en quatre tomes et c'est un peu un piège, hein, ma proposition de lecture, puisque le 3 est très 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 difficile à trouver. Je crois qu'il en restait 3 en France. Jetez-le dessus. Pour les autres, c'est plus simple. À vos papilles, c'est un format qui est plus petit que l'auteur a voulu, moins cher aussi et plus facile à éditer. Qu'est-ce que ça raconte, Jeon Bae? Ça raconte l'histoire des alcools. On va suivre en fait une productrice, enfin excusez-moi, une scénariste de télé qui doit écrire un reportage sur les boissons en Corée du Sud. Et donc là, on a une série de portraits. Alors déjà, c'est un dessin qui est assez proche d'un manga, si vous voulez, si vous voyez un petit peu l'idée. On est en noir et blanc sur les deux séries. Et dans Jeon Bae, donc, on va nous raconter l'histoire des alcools coréens et sud-coréens. Et à travers ça, on va aussi pouvoir lire et découvrir, redécouvrir la culture coréenne, les rapports sociaux, l'économie, la production. Donc on va se rendre compte que aujourd'hui il se passe un phénomène qui touche globalement l'alimentaire en Corée du Sud, c'est qu'il y a une perte de la tradition, de la production, de l'artisanat et une mainmise de l'agroalimentaire sur les alcools. Donc aujourd'hui en Corée du Sud, très facilement on va trouver des alcools pseudo traditionnels, mais qui sont très très sucrés, dans lesquels il y a beaucoup d'aspartame. Et ça, pour moi, ça a été une découverte, parce que on en a bu, hein, Laurent, des alcools sud-coréens. C'est vrai qu'ils sont sucrés, mais pour moi c'était aussi une particularité de certains des alcools, mais je n'étais pas vraiment posé la question de l'aspartame à l'intérieur. Et en fait, ça nous fait aussi découvrir que l'artisanat s'est perdu et qu'il reste quand même quelques personnes en Corée du Sud qui pratiquent l'art de l'alcool sud-coréen. Alors les alcools, en fait, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en Corée du Sud, mais c'est toute une histoire de fermentation. Voilà. Alors ça reste sur le ton du manhwa façon manga, c'est-à-dire qu'il y a des grosses têtes. Le producteur de l'émission est un alcoolo célibataire avec une grande gueule. Elle est accompagnée par un beau gosse à casquette qui est l'expert.
Il y a toujours des clichés dans ces
oui, mais alors en même temps, le beau gosse, si tu veux, quand tu lui enlèves la casquette, il est chauve dessous. Donc voilà, il y a aussi des petites choses comme ça. Mais en même temps, l'homme alcoolique producteur de télé existe bien, hein, oui. Parce que l'alcoolisme est un vrai problème en Corée du Sud. Moi, je trouvais très intéressant justement de nous parler l'alcool du côté traditionnel, tout en nous racontant la vie coréenne, dont l'alcoolisme. Mmh. Ça ne manque pas, donc c'est sur 4 tomes, donc c'est vrai qu'il faut être un peu motivé et par la Corée du Sud et par l'alcool. Et c'est une bonne découverte. Le dernier tome date de 2012, donc il n'est pas tout à fait récent, et il y a souvent des comparaisons avec le vin, et en particulier avec la France, sur l'idée qu'en France, on a des terroirs et on a su garder ça. Je trouve que c'est un peu idyllique comme vision, parce que s'ils se rendaient compte des merdes qu'on nous a mis dedans et qu'on nous a fait boire, ils seraient peut-être un peu moins angéliques. Par contre, moi, je rapprocherais ça plutôt de ce qui est en train de se passer sur la renaissance des alcools traditionnels à la bière. C'est-à-dire en France aujourd'hui, il y a beaucoup de micro-brasseries qui sont arrivées, il y a de l'artisanat, il y a des petites équipes, il y a des modèles économiques nouveaux, et je pense qu'aujourd'hui le renouveau de l'alcool en Corée du Sud, il est un peu plus proche de ça, et en tout cas il a toujours été proche de ce principe plus petit, plus artisanal. Et je trouve que c'est une bonne découverte, et donc suite à ce grand succès, parce qu'en plus ça a été édité en France, donc ils étaient plutôt heureux et assez fiers, ils ont sorti À vos papilles, qui est un petit truc beaucoup plus court, avec des petites histoires où souvent on va être pas loin de la Madeleine, vous voyez, il y a des choses que vous vous dites « Ah, ça c'est super bon, je vais le manger !» Puis en fait, c'est pas bon, parce que la Corée du Sud a aussi une... Je vous le disais, il y a beaucoup de l'agroalimentaire, c'est très présent dans les rayons, et il y a des choses qui sont pas très bonnes, il faut très bien le dire, hein. Il y a des très très bonnes choses dans les restaurants, mais dans les magasins, il faut dire que rayon épicerie, on trouve quand même beaucoup de cochonneries, que ce soit les bonbons, les gâteaux, c'est pas de leur tradition culinaire, donc aujourd'hui, il y a des trucs, mais c'est immangeable, ça a un goût de chimie, c'est vraiment dégueulasse, il faut le dire, il n'y a pas d'autres termes. Et donc, ça nous amène quand même aussi à redécouvrir des plats, à les recuisiner, parce que finalement, ces deux auteurs sont des gens assez jeunes, qui sont trentenaires, et ils font aussi partie d'une génération qui a un peu oublié la bonne bouffe, on va dire, avec l'industrialisation aussi de la Corée du Sud, le développement très rapide. Ils ont un peu perdu certaines saveurs, et en même temps, il y a quand même des gens qui portent ça, donc ça nous rappelle que rien n'est perdu, et qu'il y a quand même des gens qui savent encore porter des traditions culinaire et alcoolique, j'allais dire, alcoolisé. Voilà, donc c'est les ouvrages que je trouve intéressants pour découvrir à la fois la Corée du Sud. Si vous connaissez pas du tout, parfois vous pouvez être un peu perdu ou louper une idée, mais c'est pas très grave. Mais c'est des très très belles découvertes, et voilà, je vous invite à lire ça. Donc À vos papilles, et Jeon Bae de Kim Yoon Bin et Hong Dong Ki, et c'est chez Clair de Lune, je n'avais pas dit.
Eh ben dis donc, ça donne soif tout ça. Avec modération, il paraît qu'il faut qu'on le dise.
Oui, il faut le dire.
Voilà, avec modération.
C'est toi qui t'appelles modération ce soir.
Oui, c'est ça.
Je bois avec toi alors.
Bon, allez, musique.
Eh ben, allons-y.
Allez, musique.
Tombe sur nos contrées, le soleil est bas, les arbres ont maigri, on voit apparaître au-dessus des fenêtres une marionnette rouge à barbe d'ancêtre. Les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre? Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt, qui pour faire ce qui finira sous le sapin n'iront jamais à l'école et ne liront rien pour s'accaparer les matières premières. Le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies, où il a toujours les meilleurs prix. Le pétrole qui fait ce qu'il plastifie finit des fois dans la mer sans qu'on s'en méfie. Quand il sert à livrer les joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe. On dit qu'il passe par tous les toits, mais dommage qu'au Burundi y ait pas de cheminée. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calvottes. Vu manger sa force par mes gorges sirènes, préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Le Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon, les blocs de foie gras. Se perpètent les panses des porcs à perfette qui rient comme des morts et appellent ça les fêtes. En novembre, il vend des figurines de G.I., des tanks et des canons pour la marmaille. L'arsenal se collectionne, les parents qui triment auront-ils la maille? Voici décembre, c'est parti, les Barbies descendent en rappel dans les caddies. Blonde squelettique ne pensant qu'aux 4-4 de Ken. Et ces jeux vidéo qui tombent de la hotte donnent-ils aux ados le sens de la lutte? Génération vertueuse en virtuel aura-t-elle fait le bien dans le monde réel?
On ramasse des cadavres chaque matin en Inde, ça n'empêche pas le Père Noël de gaver ses dindes, d'arroser des armes pour que l'ivresse oublie que 5 milliards d'hommes n'ont pas ce mode de vie, que les brevets de médicaments valent de l'or, plus de valeur en tout cas que des millions de morts.
Vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calbottes, fais-lui manger sa force par les gorges et sirènes.
C'est le pervers Noël et sa supercherie vénale te fait super marcher dans tes hypermarchés. Je le croyais polyglotte, était-il complètement bête pour ne pas pouvoir répondre à toutes les lettres et les requêtes? Je croirais bien plutôt qu'il préfère les chiffres aux lettres, des riches aux prêtres. Et le verbe avoir au verbe être, en affaires irréprochables, c'est ce personnage impeccable avec sentiment charita pour mascarade en guise de fable de Saint-Nicolas.
Si tu vois le Père Noël, mets-lui des coups de semelle, fous-le dans sa hotte et mets-lui des calvottes. Vu manger sa force, barbe et gorge et sirène, prévient cet escroc qu'il est bon pour la GN.
Ouais, t'as vu ou quoi? Eh ben, vous êtes toujours à l'écoute de la causerie sur Radio Canu et on vient de s'écouter Duval MC avec le titre « Si tu vois le Père Noël ». T'as vu? Eh ben, Fab, tu l'as vu ou toi ou pas?
Le Père Noël?
Ouais.
Jamais.
Ok. C'était pour savoir ce qu'on cherche.
Mais de toute façon, il n'existe pas.
Je te rappelle que Delphine, quand elle est venue, elle pensait voir le Père Noël. Alors ne fais pas des choses comme ça d'un coup aussi violentes. Ça va, Delphine?
Je résiste. Là, mais...
Prouve que tu existes.
Je croyais que ça allait être la fête et en fait, ça y est, je suis déprimée.
Ah bah non, quand tu viens chez nous, c'est forcément la déprime.
Attends, bouge pas, la suite est
c'est
pire.
C'est ça, j'essaie de préparer le terrain un peu, quoi. À les mettre dans l'ambiance.
Non, mais comme c'était la trêve des confiseurs, moi j'avais compris que c'était la trêve des cons et en fait je n'avais pas vu que il y avait Feezer après. Ouais. Et en fait je me suis dit ça va être cool, on va pas être emmerdé là pendant les fêtes, mais en fait si. Donc voilà. Alors bon, je vais pas vous parler de Barbarin et de ses conneries tout ça, voilà.
Attends, il a fait un mea culpa.
Ouais, ouais.
Attends, il a dit ouais, comment il a dit? J'ai peut-être attendu trop longtemps ou j'étais négligent. Ah, c'est un peu comme Christine Lagarde.
C'est ça.
C'est ça.
C'était je suis coupable, mais bon,
mais pas condamnable.
Voilà. C'est ça. Peut-être qu'on a mis trop de temps pour dire non, fallait pas tripoter les petits garçons et les petites filles.
Mais je vais vous emmener chez ses potes de l'autre côté de l'Atlantique. en fait.
Tu veux dire qu'il a des potes là-bas?
Ouais. Enfin, des gens qui pensent comme lui, en tout cas.
Il y a une internationale des haineux et des fascistes. Ouais. Hein, ça, c'est indéniable.
C'était pas la trêve des confiseurs. Ah, bah, donc, et en fait, c'est National Geographic. Alors, attention, c'est pas eux les potes de Barbara.
Ah non, non, parce que.
On
non,
essaie de suivre. Donc, National Geographic, pour ceux qui connaissent pas, c'est un magazine qui, au départ, était un magazine d'explorateurs au niveau mondial, qui a été fondé au 19e siècle, hein, donc ça date pas d'hier, et qui ben, tous les mois maintenant donne ben, à voir sur la société dans le monde en général, et c'est un des magazines les plus sérieux des États-Unis en termes de, comment on appelle ça, d'exploration. Voilà. Et en fait, depuis maintenant quelques années, National Geographic s'est aussi spécialisé dans l'exploration des grands thèmes de société qui traversent le monde entier. Voilà, parce qu'ils se sont dit que, bah, après tout, la géographie, c'était bien, les animaux, c'était bien, mais en fait, les humains, c'est pas mal aussi. Donc, au départ, ils faisaient plutôt de l'anthropologie, on va dire ça comme ça, au 19e et 20e siècle. Et depuis le début du 21e siècle, ils ont décidé de se pencher un petit peu plus sur ce qu'ils appellent les grands courants de pensée qui bah, structurent un peu le monde. Voilà. Donc, là, ils s'attaquent à quelque chose qui, ben, aujourd'hui, dans le monde entier, fait débat, entre guillemets. Alors, comme ils disent, c'est pas un débat, c'est juste que ça émerge, c'est pas tout à fait la même chose. C'est ce qu'ils appellent la révolution du genre. Et pour illustrer ça, ils ont pris une charmante jeune fille de 9 ans qui pose en une du National Geographic, qui s'appelle Avery Jackson. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité autour de tout ce qui est la révolution du genre, hein, pour reprendre leur terme. Avery Jackson, elle était connue parce qu'elle a déjà posé pour le Time il y a de cela un an, et ses parents avaient déjà témoigné sur le pourquoi ils acceptaient que leur fille soit une fille. Voilà, je vous le dis comme ça.
D'accord.
Parce que oui, Avery Jackson, au départ, elle est née dans le corps d'un garçon, et donc c'est une enfant transgenre, voilà, comme on dit, et elle se définit comme une enfant transgenre. Et Avery Jackson, en fait, elle est marrante parce qu'elle témoigne et elle est surtout très enfant. Moi, c'est ce que j'aime.
Elle a 9 ans.
Elle a 9 ans. Donc, elle est très drôle parce qu'elle est simple et candide, mais en fait, ce qu'elle dit, c'est très clair, en fait. Donc, elle dit, par exemple, ce qu'il y a de mieux dans le fait d'être une fille, c'est que j'ai plus à faire semblant d'être un garçon. Oui, c'est dit comme ça, c'est bien posé. Mais là, vous avez compris en une seule phrase quelle est la problématique des personnes trans. Voilà, comme ça, vous n'avez pas besoin de faire une thèse. Et puis, ce qui est assez intéressant, c'est que elle se définit comme militante malgré elle, à 9 ans. Parce que, en fait, dans son école, elle a été obligée de faire un coming out trans, de fait, et qu'elle a donc dû expliquer à tous ses petits camarades ce qu'elle était. Et que donc, du coup, elle dit d'elle-même, elle a été obligée de devenir un peu militante, parce qu'elle dit finalement, c'est pas ce qu'elle voulait, mais que à un moment donné, quand on est confronté aux autres, on est parfois obligé de s'armer un petit peu. Alors je vous rassure, elle a gardé son âme d'enfant quand même, faut pas déconner. Et voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle fait la une. Et qui c'est qui commence à crier?
Ça a hurlé, c'est ça.
Parce que c'est là qu'on en vient.
C'est là que reviennent les copains de Barbara.
Les cathos ou les chrétiens,
alors,
plutôt.
Alors, il y a l'épiscopat chrétien. Il faut être très précis, qui sont les mêmes que ceux que vous pouvez voir dans Spotlight.
Oula.
Voilà. Des États-Unis. Vous avez aussi les adventistes qui estiment que c'est une abomination. Et puis vous avez toute la frange des Trumpistes, je vais les appeler comme ça. Donc des fans de Donald Trump, là, qui se lâchent pas mal sur Internet. Et donc tous ces gens se sont mis à insulter cette pauvre jeune fille et surtout à demander le boycott du National Geographic. Alors, ça a fait rire un peu le National Geographic parce qu'ils expliquent que dans leur histoire, c'est pas la première fois qu'ils se retrouvent confrontés à ça, parce que quand ils avaient fait un dossier sur l'apartheid dans les années 50 et que en fait aux États-Unis il y avait encore la ségrégation raciale, et forcément les gens leur étaient tombés dessus en disant vous essayez d'imposer le progressisme. Bon, c'est mignon.
En même temps, voilà. Ils risquent rien puisque les gens qui les lisent, c'est pas ceux qui ont critiqué. Donc c'est quand même un bouquin d'intello.
Oui, parce que c'est super bien écrit. Hein. National Geographic, c'est vraiment... Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ont mis ça en une et que justement, ça a créé un débat qui est plutôt cool. Et c'est cool qu'il y ait un débat, hein, pas qu'il y ait de la haine. Hein. Parce qu'en fait, ça a permis de mettre sur les devants des choses auxquelles on pense pas toujours. Et notamment par la famille de cette jeune fille qui explique que le problème en fait qu'on a dans notre société, c'est qu'on porte tous des étiquettes, mais que c'est pas nous qui nous les mettons, c'est les autres qui nous les mettent en fait. Et que on pourrait peut-être bien s'en passer, sauf que dans la société telle qu'on la vit aujourd'hui, on passe notre temps en fait à essayer de décoller les étiquettes qu'on nous a collées dessus. Et que le vrai problème qu'avait finalement leur petite fille, c'était juste qu'on lui avait collé une étiquette de garçon parce qu'elle était née garçon. garçon et que personne ne voulait reconnaître qu'elle était fille et qu'elle se sentait fille et que voilà. Et alors la famille a une phrase assez terrible, c'est « nous préférons une fille heureuse plutôt qu'un fils mort ». Voilà, et il rappelle, c'est ce qu'il disait dans le Times, il rappelle que 50% des personnes transgenres aux États-Unis ont ou soit pensé au suicide ou tenté de se suicider, et notamment avant l'âge de 13 ans.
Oui, alors c'est des ça choses. Est... Ouais, donc ça veut dire que c'est... parce que dans les cathos, les chrétiens ou même ceux qui sont contre les gens qui pourraient changer de sexe, il y a toujours cette idée. Moi, je trouve, du coup, ça me concerne pas. Donc, je parle avec un regard d'hétéro extérieur, mais il y a toujours cette idée. C'est non, mais c'est un choix. Vous décidez comme ça. Un truc branchouille, quoi. Non, en fait, c'est pas ça. Enfin, justement, l'affaire de cette petite fille montre que c'est pas un truc branchouille. On change pas de sexe parce que c'est à la mode. C'est intrinsèquement, elle n'était pas un garçon.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est ce qui a permis. Alors, c'est ça qui est bien parce que finalement, le déferlement de haine, et même elle le dit, qui a 9 ans, elle dit, elle a trouvé ça super cool, mais vous allez voir, c'est marrant parce qu'elle a reçu des messages de Laverne Cox et elle trouve ça génial. Laverne Cox, c'est une grande actrice trans, américaine et qui, du coup, je trouve ça marrant parce qu'elle garde quand même cette âme d'enfant de dire, je suis trop contente qu'il y a Laverne Cox qui m'a envoyé un tweet. Enfin, vous voyez, c'est assez drôle parce que dans ce marasme-là, elle garde quand même cette fraîcheur-là et je sais pas comment elle fait, honnêtement. Alors, ses parents la privent de tout, enfin, font en sorte qu'elle filtre un maximum ce qui sort. Il faut savoir qu'on a écrit chez elle à son nom avec des enveloppes officielles, c'est-à-dire des enveloppes d'école et de son école. C'est-à-dire qu'on a imité le sceau de son école pour qu'elle soit obligée d'ouvrir la lettre parce qu'elle lui était adressée à elle de façon à ce qu'elle tombe sur des messages de haine. Alors, vous voyez, c'est là qu'on en est. Moi, je m'étais dit quand même que pour des gens qui nous saoulent avec Noël et la félicité et le fait qu'il faut
l'amour,
tous aimer, l'amour, tout
et
ça.
Et la bienveillance sur les enfants. Quoi.
Et la bienveillance, franchement, il se place là. Quoi. Voilà. Mmh. Mais je voulais parler de ça parce que je trouve que c'est un débat qui est intéressant à mettre sur la place publique, comme on dit, mais qui nécessite parfois de mettre des torgnoles à quelques cons.
Ouais. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, nous avons eu cette discussion déjà tous les quatre, où je trouvais que sur le réseau commercial avec le machin bleu, aux États-Unis, tout le monde avait été très content parce que il y avait tout un tas de genres qui étaient proposés. C'était plusieurs dizaines de possibilités et que moi je trouvais ça horrible parce que c'était pas mieux, parce qu'on était quand même obligé de mettre une case, une croix dans la case. Mais moi je veux juste du blanc et pouvoir mettre ce que moi j'ai envie de mettre. En fait, et c'est pas une avancée du tout qu'une multinationale nous propose des dizaines de choix pour nos genre.
Non, on ne devrait pas avoir besoin de mettre un genre.
Mais d'ailleurs, c'est très rediscuté, hein. C'est ça qui est drôle, parce que ce que tu soulignais, c'est qu'au départ, ça a été vu comme quelque chose de positif, parce que ça peut être vu comme tel, quand même, le fait qu'on reconnaisse. Sauf qu'au final, ça délimitait encore une fois, et c'est un peu ce que disent les parents de cette petite fille, c'est encore une fois des étiquettes, et c'est les autres qui vous les collent. Et qu'effectivement, aujourd'hui, il y a même un courant, un mouvement, notamment aux États-Unis, qui demande de ce qu'ils appellent l'anonymisation du genre. Oui. C'est-à-dire ni sur les papiers d'identité, ni sur Facebook, ni où que ce soit, parce qu'après tout, ça n'a pas vraiment une grande importance quand on y réfléchit. Quoi.
Mais c'est réduire les gens à peu de choses.
Oui,
fait.
Mais nous, déjà, on a gagné qu'il n'y ait pas notre religion, par exemple, sur notre carte d'identité. Mmh. Il y a des pays où il y a la religion. Mmh. Mais c'est un peu la même chose. Après tout, c'est un truc personnel aussi qui nous regarde et qu'on n'est pas obligé de le donner à l'État, de le donner aux gens qui nous
Je voudrais juste vous rappeler que nous, quand même, on écoute les papiers. Tout
oui, déjà,
à la base. Hein. Donc, déjà, si tu enlèves les papiers, il n'y a plus de problème.
Ça, on est d'accord.
Voilà.
Mais par contre, c'est vrai que là, je suis d'accord avec toi. Par contre, là où il faut nuancer, entre guillemets, c'est que là, vraiment, cette affaire-là, elle se passe aux États-Unis. Et avant qu'il n'y ait plus de papiers aux USA.
Voilà.
chez nous, ce sera pareil. Hein. On peut attendre.
C'est pas facile. Non, mais en plus, il faut se souvenir que, et je le reprends parce que c'était dans l'article et j'ai oublié de le dire, c'est aux États-Unis, vous avez le triple enregistrement, c'est-à-dire local, c'est-à-dire dans votre ville, État, et l'enregistrement fédéral, et que du coup, quand vous changez d'identité, vous devez changer à tous les échelons, et c'est hyper long et hyper contraignant. C'est un exemple qu'il donnait en disant, voilà pourquoi cette petite fille à 9 ans, les parents n'ont pas envie de la brimer, comme ils disent, et de la laisser vivre telle qu'elle veut être, pour qu'elle n'ait pas à refaire 10 fois le parcours et 10 fois le coming out partout, pour dire, oui, au fait, je ne suis pas comme vous pensez que je suis. Vous voyez, c'est... Voilà. Non, mais ça paraît bête, mais... Je suis d'accord avec toi, quand tu auras plus de papier, qu'est-ce qu'on sera mieux, quoi, quand même. Ça vous dit une petite chanson un peu naze sur Noël?
Allez, vas-y, balance la sauce, là. Vas-y.
Allez.
Sur le parking de Leclerc, avec mon vieux pote Momo. camion. C'est ça, la magie de Noël. À Hawaï, Noël sur la plage en hiver, entouré de filles aux seins nus, couvertes de caviar, dans lesquelles nous plongions. C'est ça, ouais, la magie de Noël.
Et même si notre Noël est différent, ce n'est pas grave finalement, puisque nous sommes ensemble.
Tous ensemble.
Non, épargnez ça à nos auditeurs et auditrices, s'il en reste d'ailleurs. On ne sait pas. Peut-être que tout le monde a quitté la bande FM comme ils ont quitté.
Salut à toi, nous avons été piratés depuis maintenant 48 minutes. Nous allons donc reprendre l'entête.
Et c'était donc les Fatal Picard dans la causerie avec leur nouvel album qui s'appelle, je sais plus, et ben je vous le dirai pas.
Mais en tout cas, le titre
Country
c'était
Country Club.
Okay.
Voilà, le titre c'était La magie de Noël.
Ben ouais, c'est trop beau.
C'était
quoi.
C'était beau. Hein.
Ben ouais, c'est superbe.
Et Jean-Yves, tu voulais nous lire un texte court.
Ben ouais, enfin court. En tout cas, en partie. En fait, je voulais vous. On vous a déjà lu dans la causerie des choses qui sont extraites de l'encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure. Et ben là, je me suis dit, tiens, je vais ouvrir à Noël. Pour voir ce qu'ils me disent, en fait, sur Noël, en fait, les anards, tu vois. Je trouvais ça intéressant et rigolo. Donc là, je vais vous en lire une partie, mais c'en est qu'une partie. Donc le reste, je vous invite à venir sur le blog de la causerie à partir de demain, voire mardi, et on vous mettra tout le texte, enfin le lien, vous aurez accès à tout le texte, etc.
Demain soir, hein.
Et donc, je partage avec vous ce début de lecture et je vous laisserai le reste sur le site. Alors. Donc Noël, nom masculin du latin natalis, natal. Pareil aux fruits trop mûrs dont la substance interne a disparu, rongée par des vers innombrables, l'Église contemporaine ne ressemble qu'en apparence à celle des premiers chrétiens. Aux yeux, les moins prévenu, son opportunisme éclate dès qu'on réfléchit tant soit peu. Au jeûne, elle a substitué les quêtes. À la prière, l'action électorale. Et, dans ses patronages, le sport prime la dévotion. Aux parlementaires catholiques, à ses défenseurs attitrés, elle demande l'appoint de leur vote, de leur éloquence ou de leur plume, nullement la croyance en ses dogmes ou la pratique des lois qu'elle édicte pour la multitude des sots. En baptisant des vieux saints patrons des automobilistes ou des aviateurs, d'ingénieux ministres du Très-Haut ont édifié, à notre époque, des fortunes scandaleuses. Et les Notre-Dame de ceux-ci ont de cela, des artilleurs, des fabricants d'alcool ou des commerçants voleurs, les Sacré-Cœurs à l'autrichienne, à la française, à la malgache, s'avèrent d'un placement fructueux pour peu qu'ils répondent aux préoccupations du moment. Car chacun sait que Jésus, ou Marie, las des vocables anciens, déversent en général leur grâce sur qui leur donne quelques titres nouveaux. Quand la Vierge de Fourvière reste sourde, celle de la Salette ou de Lourdes peut encore quelque chose, et le divin cœur, insensible à Besançon, l'est parfois moins à Paray, Le Monial ou Montmartre. Les saints, les plus achalandés, n'ont la vogue qu'un moment. À Martin, si populaire au Moyen-Âge, nos dévots préfèrent le curé d'Ars, ou la jeune Thérèse de Lisieux, dame joliment le pion à sa vieille commère, la Thérèse d'Avila. Aux médailles de Saint-Benoît ont succédé celles de Saint-Christophe, au scapulaire de Mont-Carmel, celui de l'Immaculée Conception. Comme les produits pharmaceutiques, les recettes dévotes ont besoin de varier pour rester à la mode. Mais l'on aurait tort de croire que cet étrange spectacle dénote d'un état d'esprit nouveau. De même que les dogmes chrétiens empruntèrent beaucoup au milieu intellectuel qui les vit éclore, de même fêtes, rites et pratiques cultuelles diverses furent très souvent un décalque de ce qu'on faisait ailleurs. À toute époque, le catholicisme s'appropria des usages jugés utiles de ses concurrents. Le chapelet, pareil, d'origine musulmane, et de très vieilles pratiques religieuses furent habilement contrefaites par les prêtres romains. C'est au culte païen, en vogue lors de leur gestation, que les rites chrétiens sont particulièrement redevables. Ils empruntèrent, surtout aux religieux orientales, propagés en Italie dès le début de notre ère par les soldats et les marchands. Trop formalistes, trop dédaigneux des individus, uniquement préoccupés de sacrifices extérieurs et de pompes officielles, sans autres prêtres que des fonctionnaires, le paganisme romain ne répondait plus à la ferveur mystique, aux besoins de pureté intérieure réclamés par les foules. Pour lui rendre un peu de vie, Plotin, Porphyre, Jean Blic, Julien et ses autres défenseurs devront lui infuser un peu de sève orientale. Mais tout autre apparaissait, les cultes d'Isis, de Sérapis, d'Osiris, de Mitra, etc., qui éveillaient l'espoir dans le cœur des hommes, leur montraient le chemin de l'extase divine et leur rendaient supportables les tristesses d'ici-bas. Dans le pauvre, dans l'esclave, ces religions voyaient un frère malheureux, et c'est à ces aspirations profondes qu'elles s'adressaient. Contre elles, ces vraies concurrentes, le christianisme fut longtemps aux prises et, durant quelques siècles, l'on ne peut savoir qui l'emporterait de Jésus ou de Mitra. Las d'une guerre qui s'éternisait, incapable d'une victoire complète, l'Église finit par adopter certaines pratiques du culte rival. Identifiant en quelque sorte les deux personnages, elle placera ainsi la naissance de Jésus le jour même de la naissance de Mitra. Telle fut l'origine du Noël chrétien. Et je vous invite vraiment à lire la suite dans l'Encyclopédie anarchiste, parce que justement ça continue en fait dans cette démonstration que l'Église il n'y a absolument rien de valable dans cette doctrine, et qu'elle ne s'est inspirée quasiment que de ce qui existait déjà en fait.
J'aimais bien ton expression, c'était une OPA, tu disais.
Oui, moi pour moi en fait c'est ça. Chaque religion qui ensuite suit celle qu'il y avait avant, c'est une OPA en fait qu'ils font sur les pratiques qu'il y avait en cours à ce moment-là, et ils se disent bah tiens maintenant c'est tout à nous, parce que ils sont Parce que justement, eux, leur lutte est sur des millénaires.
Et d'ailleurs, il y a des grosses incohérences, puisque les images qu'on a des rois mages, tout ça, de la crèche là, qu'on a aujourd'hui, ça ne peut pas se passer en décembre, en fait. Parce qu'il fait beaucoup trop froid, et les animaux ne vont pas en pâture. Mmh. Donc en fait, ce n'est pas possible. Mmh. Et effectivement, ces images-là, de la crèche, tout ça, ça date d'une époque lointaine. Et ils allaient avant qui serait approprié justement des fêtes du 25 décembre. Et du coup, ils se retrouvent en incohérence parce que c'est pas possible d'avoir ces rois mages le 25 décembre au jour. Alors bon, ben voilà, je crois que ça s'est fait au 3e ou 4e siècle,
ouais, c'est ça. Ouais,
où il y a eu plusieurs discours sur quand est né Jésus, c'est et ça. Ils ont décidé de cette date parce que effectivement ça tombait avec toutes les fêtes. Il y avait des fêtes du solstice, oui, d'hiver, mais c'était les fêtes païennes. Il y en avait dans toute l'Europe, mmh, et il y en avait beaucoup dans l'Empire romain, mais il y en avait tout dans le nord de l'Europe. C'est la même chose, oui, puisque les fêtes existaient dans les religions traditionnelles des Vikings, de tous les gens là-haut, enfin un peu partout en Europe. Et du coup, l'Église a choisi la meilleure date, en fait. C'est, mmh, vraiment la meilleure date, 25 mmh décembre. Pile poil, il y avait plein de fêtes, on transforme ça. C'est la naissance du Christ. Or, bah, même avec leurs propres images, ça marchait pas, quoi. C'est assez drôle.
Et Mithra, alors Mithra, c'était une déesse...
Perse,
merci.
De rien.
Je t'en prie. Et donc justement, c'est ça. C'est-à-dire que c'est vraiment une OPA quasi mondiale, en fait, de là où ils avaient des infos, mais ils se sont exactement tout réapproprié. Et c'est toujours comme ça, de toute façon. Mais c'est toujours pour mieux nous berner, nous, alors, et pour garder un pouvoir, en fait.
C'était pas les premiers. Hein. Les autres religions sont aussi construites comme ça. Quoi.
C'est exactement ça. C'est ça.
Mais il faut pas oublier que les cathos étaient pas cons, parce que l'Empire perse était le plus costaud à l'époque. Donc convertir l'Empire perse, c'était une bonne idée.
J'ai pour habitude de jamais trop sous-estimer l'intelligence de mes ennemis, en fait.
C'est pas faux.
Sinon, ça se croire des fois un peu trop intelligent. Bref.
Tu veux qu'on parte en Chine ?
Ah bah oui, ah. Allons faire un petit tour là-bas.
Petit enfant de la Chine, tu fabriques mes jouets dans ton usine. Avec tes tout petits doigts, tu t'amuses bien, c'est un peu grâce à moi. Ton patron, il doit être trop cool, il t'oblige pas d'aller à l'école. Et si il te file pas beaucoup d'argent, c'est pour que tu restes longtemps un enfant innocent. Mais quand même j'aurais voulu te dire un truc, depuis que mes jouets sont faits chez toi, ben, moi je trouve quand même qu'ils sont un peu moins solides. Ce serait gentil de ta part que tu t'appliques, parce que sinon je peux te parler de mes baskets, que ça fait seulement 3 semaines que je les ai. Et y'a déjà la semelle qui se décolle, on voit bien que c'est pas toi qui vas les porter. Petit papa chinois.
Ah ben Didier Super, c'est bon, mais c'est très court. Donc voilà, on vient de s'écouter Didier Super avec un petit titre toujours en adéquation avec cette formidable période qu'on vit, qui s'appelle donc Noël. Et le titre, c'était donc Petit Papa Chinois. Et Fab, tu voulais nous faire un petit point.
Je vais faire quoi, moi, maintenant ?
Un sujet, ah oui, je crois. Et vous êtes toujours dans la causerie, tout ça, un petit peu complètement déconstruite. Mais on y arrive.
Mais du coup, comme on a des invités pas prévus, mais qui sont là, bah, je vais profiter de leur présence pour dire que c'est pas parce que c'est Noël que l'actualité s'arrête. La preuve, c'est qu'il y a des Canu Info, et qu'il y a des Canu Info en particulier le jeudi soir de 19h à 20h. Voilà, et que vous serez là, hein, la semaine prochaine.
Ah, il y a même des rumeurs sur le sujet. À partir de 19h30, nous allons avoir un grand sujet que nous trouvons d'actualité, puisque peut-être que vous êtes malade. On va parler vaccin et homéopathie. C'est-à-dire, globalement, on va vous parler d'un truc qui peut marcher et un truc qui ne marche pas. Alors, vous choisissez votre camp. Nous, on a déjà notre opinion, on vous le dit tout de suite, on est des rationalistes.
Non, tu
pour une partie d'entre vous, vous êtes en plus des scientifiques. Donc voilà, on a envie de vous reparler tout ça et on espère bien, effectivement.
Attends, mais l'homéopathie, ça ne marche pas?
Ah, ça y est, on a boiron au téléphone.
Attends, mais moi j'ai pris mes granules avant de venir. Et je tousse encore. Ah, c'est pour ça que je tousse toujours.
Ça s'entend que ça marche pas.
T'as fait une démonstration, tu vois. C'est génial. Merci, Laurent, de te sacrifier pour la cause.
Oui, ça sera donc notre dernier Canu Info de cette année 2016 avec cette petite thématique hivernale. Mais on avait un petit peu envie de remettre les points sur les i parce qu'il y a quand même des trucs absolument délirants ces derniers temps. Ce qu'on entend sur la santé, et parfois ça va même jusqu'au complot, donc on trouve ça toujours un peu énorme. Et il faut savoir être critique face à l'industrie pharmaceutique, mais il faut savoir aussi reconnaître quand on peut se soigner.
C'est ça. Voilà. Voilà, ça c'était pour caser le fait qu'il y avait des Canu Info parce que l'actualité ne s'arrête pas. Et moi je voulais juste souligner quelque chose de, qui me semblait un peu aller de soi, c'est que dans ces périodes de fêtes, malheureusement, et de fêtes religieuses, on laisse toujours la parole, malheureusement, aux religieux. Et par exemple, la messe de minuit qui est diffusée avec vos impôts sur France 2, ça c'est assez génial.
Ça m'a rendu fou.
Non, mais je vous rappelle que tous les dimanches matin,
Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit qu'il y a la parole en fait politique est pendant au moins une semaine ou deux complètement détruite, mis de côté, et que la parole religieuse prend le dessus dans ces périodes-là. Et c'est un réel problème, parce qu'en réalité, on sait qu'il y a des conflits dans le monde, qu'il y a des choses qui se passent, qu'on parle pas forcément de certains conflits parce qu'ils n'arrangent pas tout le monde. Par exemple, on évite de parler du Yémen en ce moment, parce que le Yémen, le pape, il a pas grand-chose à dire dessus, parce qu'il y a pas de chrétiens, donc il s'en fout un peu. Et que donc, du coup, vous voyez, quand on laisse la parole politique que aux chrétiens, ça pose légèrement problème, parce qu'on oublie un petit peu qu'il y a d'autres choses dans le monde. Et puis voilà. Et puis rappelez juste aussi que c'est une sale période pour plein de gens, notamment les gens qui sont enfermés, parce qu'on les oublie un petit peu beaucoup et très vite. Que ce soit les gens qui sont enfermés parce qu'ils sont migrants, ou les gens qui sont enfermés en prison,
ou les gens qui sont enfermés dans un hôpital,
ou les gens
qui ne peuvent pas en sortir, etc.
Et tous ces gens-là, en fait, on a tendance un petit peu à les mettre de côté aussi parce que c'est pas très très joyeux et puis ça fait pas trop rêver. Sauf que c'est justement une période très dure et en particulier les fêtes. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'il faut être là, et c'est peut-être aussi un peu pour ça que nous on avait envie d'être là ce soir. Je dis ça sans mais juste pour dire il y a des gens des fois qui ont envie d'écouter la radio et qui ont envie d'écouter d'autres choses que des chants de Noël merdiques. Ah merde, ça c'est ce qu'on
a fait. Non, on a fait ça.
Quand même on n'est pas parfait quoi, je veux dire.
mais c'est important d'être là dans ces périodes là parce que il y a des liens qui n'existent plus.
Que là en plus, surtout là en ce moment, on te vend quoi? On te vend les repas de famille, on te vend l'achat de plein de choses, on te vend que du bonheur quoi, et que quand t'es seul, que ça soit à l'hosto avec un traitement ou en tôle ou ailleurs, je crois que tu te sens encore plus seul. Je sais pas, peut-être que des personnes pourront confirmer par des commentaires, mais je crois que tu te sens encore plus seul que d'habitude quoi, et que nous qui sommes sur un média libre et rebelle, je pense que notre place est là aussi et pas que autour de la bûche.
Ouais, et puis aussi, je voulais quand même le faire aussi, c'est saluer ceux et celles qui sacrifient leurs fêtes pour que nous puissions faire les nôtres. Et je pense notamment aux gens qui sont aux urgences, qui sont pompiers, qui sont tous ces gens qui interviennent, qui sont là et qui font en sorte qu'on aille bien quand il y a un pépin.
Ouais, même ceux qui font l'électricité. Hein, je rappelle que l'électricité, il y a des techniciens de maintenance en permanence.
Qui pédalent dans la cave faire votre électricité.
Alors même l'électricité bio de Radio Canu, elle n'est pas faite avec des gens qui pédalent, mais il y a quand même des techniciens qui assurent le fonctionnement, parce qu'il y a toujours un truc qui tombe en panne malheureusement, et il y a toujours des gens qui bossent en fait, on se rend pas compte.
Et ça me fait permettre de faire une petite transition sur ce que je voulais terminer par dire. C'est aussi pareil pour les gens qui nous ont livré les cadeaux à la dernière minute, le 24 à 21h comme le permettait Amazon. Je vous laisse réfléchir à ce que vous faisiez le 24 à 21h. Un petit Lee Scratch Perry.
Allez, vas-y, balance.
Santa. Ladies and gentlemen of the universe, Santa Claus will be here. Santa Claus will be here. Ice and snow will be here. Ice and snow will be here. San Francisco, San Francisco. Monkey will be here. Boom in there here. Boom in here and boom in there. Monkey will come near beer and come to see you. Monkey near your bar, near your beer, it's in the bathroom, sir. Monkey, where's your locks? Where's my locks? I leave it in the box. I say, where's the ducks? I have no box. My place in the coffin, coffin. Donkey will be here. Police will be fools, cops will be fools, judges will be fools.
Ça, ça tue pas, je sais pas ce qui tue quoi. Alors, on vient de s'écouter Discret Perry avec le titre Santa Claus. On l'avait déjà passé, mais je trouve que ouf, voilà.
C'est Noël.
C'est Noël. C'était cadeau. T'as pas aimé Laurent, hein.
Laurent, il a les oreilles qui saignent.
Il n'y a pas eu les grosses guitares et les grosses voix.
Ah ouais, non. Ah, mais t'inquiète pas, ça va venir.
Ah, c'est la petite surprise de la fin.
Oui, parce que c'est une surprise. Hein. Attention, ouais. Le générique de fin, enfin le titre de fin sera une surprise
énorme.
Énorme.
Avec
je crois
une
que c'est
grosse, grosse voix.
Oui, ah, c'est ça. C'est vrai. Au moins aussi grosse que la mienne.
Ouais, d'accord. C'est pas gagné.
Non, c'est pas gagné. Et bien, comme d'hab, on les termine. Frères, ouais, on termine vite fait, parce qu'on on dépasse un petit peu ce soir, mais c'est pas grave, hein, c'est la féerie de Noël, tout ça, tout ça. Avec quelques brèves, et bien, comme tous les lundis, et ça continue, même en cette période estivale, tout ça, tout ça.
Non, estivale,
pardon.
Mais... C'est une période de vacances.
De vacances, merci.
Mais pas encore estivale.
Pas encore estivale, on est d'accord.
Non, mais parce que
c'est la bien. Permanence juridique tous les lundis de 18h30 à 20h à la Lutine. C'est dans le 7e arrondissement. 91 rue Montesquieu.
C'est ça.
Et toi, tu as un rendez-vous à donner ?
Alors, j'ai deux choses à dire. La première, c'est qu'aujourd'hui, bon anniversaire Newton. Ça, c'était pour faire plaisir à Georges. Oui, parce qu'il est né le 25 décembre.
C'est ça. Et Isaac Newton, tiens, on n'en a pas parlé dans la causerie précédente.
Ouais, voilà, c'est pas beau, quand même.
Tu veux dire, le mec qui a reçu la pomme sur la tête, tout ça.
Ouais, c'est ça.
Mais
voilà.
Écoute l'émission, tu verras que tout cela n'est pas totalement vrai.
Celle-là, je ne l'ai pas écoutée. Ouais.
Et ben voilà.
Pour moi, Newton, c'est juste Gottlieb. Bon, et quelqu'un qui nous a quittés il n'y a pas longtemps.
Bah, il a fait deux trucs derrière. Enfin, avant.
Newton ou Gottlieb.
Les deux ont fait plein de trucs. Et puis oui, donc dire que le 8 janvier 2017, donc l'année prochaine, oh, quelle blague de fin d'année, et ben nous recevrons Philippe Deschemin qui viendra nous présenter un cycle qu'il lance à l'Unif Pop du Pays Viennois sur les penseurs de l'émancipation. Voilà, ce sera une petite heure avec Philippe Deschemin que vous avez déjà entendu dans la causerie.
À propos du livre Contoyen.
Voilà. qui était venu présenter.
C'est ça. Et la semaine prochaine, alors on vous promet rien, de toute façon on promet jamais rien, c'est mort les
promesses.
Mais on
sera sans doute là.
Mais on sera peut-être là, si c'est pas toute la causerie, une partie, enfin bon.
En tout cas déchirer tout, ça c'est sûr.
Certainement. Très certainement.
On sera quand même le premier, ça se fête plus que Noël.
Voilà, et ben je crois que...
Il est temps.
Déjà de vous remercier.
Ah mais merci pour l'invitation.
C'était sympa de venir à la causerie. Hein.
C'est bien.
Bah, reviendez quand vous voulez. Hein.
Non, me dis pas ça comme ça.
Ah bon?
Tu connais pas les parasites qu'on peut être.
Bah, ouais, je sais à peu près à qui je le dis quand même, chérie. Ouais. Je le dis pas à tout le monde.
Okay. Et peut-être que vous réentendrez nos voix jeudi soir. Ouais, entre on l'espère 19 bien. Et 20 bah, oui.
On espère bien.
Voilà.
Bah ouais.
Allez.
Bah, oui. Allez.
C'est parti.
Ah bah ouais.
Alors avant.
C'est quoi la surprise?
Alors avant.
Ah.
Max, du Petit Bazar, oui, je t'affiche là, toi tout de suite, maintenant. Je sais que c'est ton titre préféré et que tu l'écoutes chez toi, le soir, dans la période de Noël, en dansant. Mmh. Et j'avais envie aussi de le dédicacer à Laurent, parce que dans ce titre, il y a tout ce que tu aimes, ouais, une grosse voix.
C'est ça, je pense que ça va être difficile.
Un peu de guitare, très très peu, ouais. et des grosses cloches. Donc c'est tout à fait pour toi. Eh ben, je vous laisse là-dessus. Salut.
Oui, on souhaite bonne nuit, bonne semaine, peut-être à la semaine prochaine et bon courage à toutes et à tous celles et ceux qui bossent, bordel.
Et avant de couper le micro, je vais donc annoncer que nous vous écoutons Maria Carré avec Putain. All I Want.
Et oui.
J'en étais sûr.
C'est la féerie, tout
c'est
ça.
C'est parti.
Oh là là. Bisous,
vas-y,
bisous,
Laurent, dis ce que tu
veux. Bravo.
Ah voilà.
Merci, Laurent.